La bande du jeudi. La bande du jeudi.
L'heure de la trêve est aussi terminée pour la bande du jeudi. On se retrouve pour décrypter l'actualité du HC Ajoie et notamment cette défaite claire et nette subie hier à Fribourg. On remèdera sur les performances individuelles de cette soirée chez les Dragons grâce aux étoiles. On évoquera aussi le ménage à 5 devant la cage jurassienne et des étrangers en panne de production offensive. Ce nouveau podcast sera l'occasion aussi d'en apprendre davantage sur notre invité du jour, le défenseur Gaël Christ.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans notre podcast. Salut Rafi.
Salut Michel.
Salut Yann.
Salut tout le monde.
Merci d'être encore une fois des nôtres. Et puis salut Gaël, bienvenue dans ce podcast.
Merci et bonsoir.
C'est ta grande première ici avec nous. On t'en a parlé de ce podcast, t'es fin prêt?
Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu le temps d'écouter et de me préparer correctement, mais je pense que ça ira quand même.
Ça ira très bien. En plus, on va commencer en douceur puisque la première partie, elle te concerne, elle concerne ta carrière.
La bande. La bande du jeudi.
Voilà, ben Gaël Christ, t'as 21 ans, t'es jurassien, joueur du Cru donc, t'es né à Delémont. Ta présence avec nous aujourd'hui, elle tombe bien, hein, t'as marqué ton premier point de la saison, hier à Fribourg, un splendide assist d'ailleurs sur le but de Kylian Motet. Ben, explique-nous peut-être déjà pour commencer un petit peu ce geste, cette action du 2-1 à Fribourg.
Bon, ce premier point qui tombe enfin, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'ai déjà eu pas mal d'actions jusqu'à maintenant, là, puis bon ben voilà, hier ça s'est fait... Bah c'est fou parce que des fois tu fais des superbes actions, j'ai déjà eu des tirs déviés qui terminent dans la latte, j'avais presque marqué un but en tirant dans le poteau, et puis hier soir ça part d'une perte de puck de Vic, hein. Moi j'ai dit sur la glace bien 1000 pucks derrière comme c'était fait exprès pour la blague, mais oui, il perd un peu son puck et puis bah voilà, j'ai suivi l'attaque, j'ai vu Kylian qui était tout seul à droite, puis je me suis dit bon bah... Autant essayer parce que de la position où je suis face au gardien sans trafic, c'est compliqué de marquer. Donc, essayer au deuxième poteau, il prend son rebond et puis ça a fait un but important à ce moment-là de revenir à 2-1. Puis voilà, bon, je pense qu'on en reviendra après, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu tenir le score un peu plus longtemps.
On y reviendra effectivement, mais pour l'instant, on va se focaliser sur toi. Hein. Tu es donc de retour à Porrentruy depuis mi-septembre. À ce moment-là, officiellement, pour remplacer Bastien Pouilly, qui était blessé. Tu es prêté par ton club Bienne, avec qui tu es sous contrat jusqu'en 2027, c'est juste?
C'est juste.
Et puis, tu as une option dans le contrat de rétractation. En gros, ça veut dire que Bienne peut te rappeler à tout moment, c'est bien ça?
C'est ça.
Tu as une perspective, pas forcément? On te contacte régulièrement depuis Bienne ou pour l'instant, c'est vraiment HCA à 100%?
Ouais, pour l'instant, c'est plutôt HCA. Après... J'ai pas forcément beaucoup de contacts avec Steinegger. Ça se fait plutôt entre Steinegger et Vauclair. Après, voilà, moi je. De toute façon, c'était un accord qui était bénef pour tout le monde. Pour Ajoie, vu qu'il manquait des défenseurs. Pour Bienne, vu que de toute façon, j'aurais pas joué en National League. Et puis, bah, pour moi, pour ça, quoi. Faut que je prenne du temps de jeu. Au mieux, j'aurais pu jouer à Holton, je pense, en Ligue B. Je suis en National League, j'ai des bonnes minutes quand même. Donc c'est bénéf pour tout le monde.
Ouais, Bienne à Ajoie, c'est un petit peu l'histoire de ta vie de hockeyeur. Hein, c'est pour ça que tu habites à Saucy, un peu entre les deux.
Ouais, alors avant j'habitais à Delémont. Et puis j'ai même encore joué à Chaux-de-Fonds entre-temps quand on regardait pour le déménagement. Donc centré un peu au milieu, ouais. Mais effectivement, ouais, je suis un peu toujours resté dans la région. Et puis ça a commencé à Ajoie, parti à Bienne. Et puis maintenant je reviens ici, en tout cas pour le temps que ça durera, mais... Ouais.
On va revenir sur tout ça. Tu as commencé le hockey très tôt, hein, tu nous le disais, vers 5 ans. Ça a été pour toi une vocation tout de suite?
Vocation, pas forcément. J'avais commencé par le inline à Rosmaison. Ça devait être vers 4 ans à peu près. C'était l'été et puis après, au final, en hiver, il n'y avait plus rien à faire. Donc, on allait essayer le hockey. J'avais fait une saison à Delémont en école de hockey. Et puis après, j'étais parti à Ajoie parce que à Delémont, ça me plaisait pas trop. Il y avait 2-3 joueurs et qui, ouais, l'ambiance était pas tip top. Et puis quand je suis arrivé à Ajoie, ça a vraiment été le coup de cœur de l'ambiance où tout le monde était juste là pour jouer et avoir du plaisir. Et puis, c'est ça qui a été très important. Après, je sais pas vraiment à partir de quel moment je me suis dit que je voulais absolument être pro. Probablement au moment où j'ai eu l'occasion de partir à Bienne et puis que j'ai voulu. Donc déjà là, je savais que si je partais à Bienne, c'était déjà entre guillemets un peu un sacrifice parce que j'étais à l'école à Turmane à Porrentruy, ça se passait vraiment bien, je m'entendais vraiment bien dans ma classe, l'ambiance, tout ça. Puis je sais qu'en partant à Bienne, ce serait peut-être pas forcément la même chose.
Et qu'est-ce qui fait que tu pars finalement en U15, entre les U15 d'Argeois et les U15 de Bienne? Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision?
De toute façon, il aurait fallu partir pour les élites en U17. Mais j'étais allé m'entraîner l'été avec Bienne, où j'étais déjà allé sur la glace avec eux. Et puis le coach avait dit que si je venais là, je pourrais jouer. Donc je m'étais dit, franchement, quitte à partir dans une année ou bien maintenant, autant partir maintenant. Et puis je serais peut-être aussi. Puis même ça, ça a été mieux parce que j'étais pas du coup un nouveau en arrivant en U17. J'avais déjà fait une saison. Et puis cette saison, ça avait été, au niveau du hockey, on avait perdu un match de la saison, je crois. On avait vraiment une grosse équipe. On avait fait champion suisse d'ailleurs. Et puis c'était pas plus mal, comme ça j'avais pu m'habituer un peu dans les vestiaires sans que sur la glace ce soit compliqué, parce que dans une équipe où tu gagnes tout, ben, c'est de toute façon facile de s'intégrer, et puis même l'ambiance en général. Donc après, je suis arrivé en U17, j'étais déjà dans l'équipe, et puis je pense que ça avait été plus facile.
Moi, je crois que si on regarde un peu ton parcours, précocité, c'est un terme qui peut lui convenir assez bien. Tu es parti à Bienne, tu as rapidement joué aussi avec Lys, alors que tu étais en U15, avec des U17 qui étaient en novice, sauf erreur.
Oui.
Et puis par la suite, tu es promu aussi en première équipe du HC Bienne, on y reviendra, en très jeune, 18 ans à peine, 18-19 ans, Swiss League. Cette précocité, elle est due à quoi? C'est ton talent, ta carrure, un mélange des deux?
Je pense plutôt que c'est... C'est compliqué de dire, mais je pense plutôt que c'était dans ce que j'étais comme personne, et puis peut-être aussi la maturité. J'ai jamais été le plus gros, j'ai jamais été le plus lourd. J'ai un jeu assez... je suis quand même bon avec le puck. Et puis, au final, on était... Il y a beaucoup de joueurs à tous les niveaux. Et puis peut-être ce qui m'a fait me démarquer, c'est... Ouais, quand t'as plusieurs joueurs au même niveau... La différence, elle se fait sur ces petits détails, et puis peut-être le fait de la discipline que j'avais, aussi mon comportement dans l'équipe, peut-être que c'est ça qui a aidé à trancher pour les décisions, pour savoir qui envoyait en Swiss League plus tôt, qui envoyait avec la première équipe.
Et bien ce chemin donc au HC Bienne, U15, U17, U21 après, chemin somme toute assez logique, et puis il y a ce fameux 10 décembre 2022, on imagine que tu t'en souviens.
Oui.
C'est ton premier match?
Oui,
contre...
c'est ça, contre Ajoie.
Et c'est aussi ton...
Premier but.
Exactement. Ouais. Raconte-nous un peu cette soirée qui a été un déclic, on imagine, aussi pour toi à ce niveau-là.
Déjà, c'est tombé un peu de nulle part, on va dire. Là, j'étais entre les juniors de Bienne et puis Chaux-de-Fonds. J'essayais... Ouais, mon but, c'était de faire un maximum de matchs avec Chaux-de-Fonds, mais je ne m'étais pas vraiment fait ma place, donc je faisais un peu le bouche-trou pour quand il y avait des blessés. Mais c'était une bonne expérience déjà en Swiss League, même en deuxième année. Donc je prenais les matchs que je pouvais, et puis après j'étais de retour avec Bienne, et puis le vendredi soir, là, après un match, il y a le coach de U20 qui me dit « Ouais, tu vas demain matin t'entraîner, puis peut-être que tu joueras demain soir. » Donc gros tournant, c'était censé être un samedi de congé, et puis au final, je suis allé m'entraîner le matin, j'étais tout seul, je crois, on était 3 ou 4 sur la glace, puis Antti m'a dit « Ouais, tu joues ce soir. » Puis après, le match, ça s'est passé, j'ai joué... je crois 5-6 minutes, ce qui est quand même beaucoup pour un tout premier match. Et puis j'ai mis ce but, c'était une soirée... J'ai presque l'impression que c'était pas réel quand j'y repense, mais j'ai l'impression que j'étais pas du tout conscient de ce qui se passait. Contrairement à mes matchs, si je prends une année après, quand j'ai fait ma saison à Martigny, là je me rendais déjà un peu plus compte de ce que c'était.
Et mais t'as pas vraiment été payé entre guillemets après ce match, parce qu'il n'y a pas eu de suite, c'est ça? T'as joué qu'un seul match cette saison-là, hein? T'as dû attendre un bon moment pour avoir encore ta chance après en National League. C'était là seulement la saison suivante entre guillemets, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors il y a eu quelques entraînements par-ci par-là, surtout pendant les pauses nationales, quand certains joueurs partent et puis qu'ils font un peu du nombre. Mais entre guillemets, après c'était aussi la saison où Bien a terminé deuxième et allé jusqu'en finale, donc. Ça veut quand même dire qu'il y avait un gros contingent derrière. Donc, comme jeune ou à 18 ans, c'est à part si le coach voit vraiment quelque chose en toi et puis qu'il se dit « bon, on veut le pousser », c'est compliqué de se faire une place aussi vite, puis surtout sur un match.
J'ai utilisé le mot « précocité » avant. Il y en a un autre aussi qui m'est venu en préparant ton portrait, c'est « caméléon », entre guillemets. Ta faculté d'adaptation, on l'a dit, Ajoie, Bienne, Lys, Chaux-de-Fonds, Martigny. Première équipe de Bienne, U21 de Bienne. Enfin voilà, il y a eu énormément d'équipes en très peu de temps. T'es un gars de vestiaire qui s'adapte facilement. C'est aussi ça qui te permet d'évoluer à un tel niveau aujourd'hui?
Ouais, c'est possible. Après, je pense qu'à part si t'es vraiment si t'as vraiment un caractère spécial, c'est dur de pas se faire dans une équipe. Après, il y en a. Après, c'est aussi, moi, j'ai l'impression dans la mentalité qu'on a, et puis peut-être aussi même, j'ai envie de dire, les Jurassiens, où on est tout le temps considéré comme petit de notre coin, qu'on n'a pas vraiment notre place là. Puis au final, bah, j'ai pu toujours me faire. Alors moi, je ne suis pas une grande gueule dans les vestiaires, comme on dit. Mais je peux discuter avec tout le monde. J'ai aussi appris avec les langues, avec le temps. Donc c'est aussi plus facile de se faire dans les vestiaires. Mais au final, si tu collabores un peu, si tu fais des efforts, au final, ça se fait naturellement. Avec Chaudefond, ça se passait bien dans les vestiaires. Alors c'était encore très différent parce que c'était mes premières expériences avec des pros. Donc c'est quand même... Ouais, ça discute d'autres choses dans les vestiaires, c'est une autre maturité, un autre style. Après, il y a eu Martigny où c'était vraiment, avec du recul, une super année. Il y avait une super ambiance dans les vestiaires, tous des bons gars. Il y avait certains joueurs qui étaient, entre guillemets, pas spécialement là pour être en Swiss League, mais qui étaient là dans l'équipe. Et puis eux, ils ont aussi beaucoup aidé. Je pense à Cédou, je pense à Kurit. Ou au niveau de l'ambiance d'équipe, ils ont vraiment fait pour que tout le monde soit regroupé. Ben voilà, au final, il faut faire des efforts parce que forcément, il y a des joueurs qui sont un peu plus difficiles à vivre dans les vestiaires, mais c'est rare. Il y en avait même plus en junior qu'il y en a en pro. Et puis voilà, il faut quand même un peu savoir s'adapter, mais au final, ça se fait naturellement.
Si on revient sur les derniers instants de ton parcours, on va dire avant aujourd'hui, ben la saison passée, tu es en première équipe à bien établi, en continu ou presque, à quelques matchs en National League, en Swiss League, pardon, avec Holden. Mais tu joues quand même 47 fois avec Bienne. Tu as une moyenne quand même à ton âge à peine de 9 minutes 34 par match. C'est conséquent. Par contre, et puis la fin de saison, en plus, tu fais ces finales en U20 où tu termines vice-champion de Suisse avec le HC Bienne. Et puis, entre guillemets, j'ai envie de dire patatras, à l'intersaison maintenant, on ne te fait plus vraiment confiance à Bienne. Tu vois que tu dois aller chercher ailleurs, tu trouves à joie. Qu'est-ce qui explique finalement un peu ce revirement? Rafi a dit aussi avant que tu avais dû prendre ton mal en patience dans un premier temps à Bienne. Tu t'es installé l'année passée et puis cette année, on te fait quand même gentiment comprendre qu'on ne compte pas vraiment sur toi encore.
Ouais, alors, c'est parti un peu plus tôt que le début de cette saison. L'année passée, j'ai eu un début de saison qui était très spécial de ce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai commencé les 15-20 premiers matchs avec beaucoup de temps de jeu, en jouant très bien. Peut-être même que je surperformais par rapport à ce que je me rendais compte. Et après, il y a eu... Je ne sais pas si c'est un rapport, mais il y a eu une blessure. Peut-être qu'après, il y a eu une appréhension dans mon jeu. Où après, il suffit de rien. Tu perds une demi-seconde en National League, tu te fais attraper tous les pucks, t'es en retard sur tout, quoi. Ça se joue à une demi-seconde près. Donc après, à partir du mois de novembre, ça a été plus compliqué. J'ai eu justement cette phase où j'étais plus trop en confiance, où j'arrivais plus à faire un jeu, j'arrivais plus à faire une passe. Après, ils m'ont envoyé à Holton, ça n'a pas forcément aidé, parce que j'étais vraiment dans une phase compliquée. Et après, fin de la saison, ça a été un peu... Ouais, je pense qu'à partir de janvier, j'ai plus... Donc au final... Tu l'as dit sur la moyenne, ça faisait une moyenne de 9 minutes sur la fin de saison, mais je pense que sur les 25 premiers matchs, j'avais 15 minutes. Et puis après, au final, j'avais plus de temps de jeu. Donc c'est... Ouais. Si la saison avait été dans l'autre sens, j'avais commencé avec 15 matchs, avec aucun temps de jeu, puis à la fin, ben, 14-15 minutes en jouant très bien, ben voilà. Je pense que je serais encore à Bienne maintenant. Et puis au final, il y a eu la préparation cette année avec Bienne où j'ai de nouveau bien joué, j'étais de nouveau en confiance, j'arrivais à jouer avec le puck, mais j'ai pas... Ouais, tu sens que le vent, il tourne pas vraiment en ta faveur, j'ai pas eu énormément de temps de jeu non plus. Et puis après, ça s'est vu en début de championnat où il me faisait pas jouer. Et puis après, je sais pas qui c'est qui a... Je pense que c'est mon agent Voisard qui a démarré les hostilités. Et puis, du fait de la situation d'Ajoie et puis Bienne, ça, on en a parlé, c'était bénéfique pour tout le monde. Mais à Bienne, j'étais 9e défenseur, ils n'avaient pas trop de plans pour moi, donc il fallait changer quelque chose si je voulais jouer en National League.
Ouais, compliqué, hein, à Bienne, il y a eu le changement d'entraîneur, il y a Antti Mainen qui était là pendant longtemps. Tu as commencé ton premier match avec lui, peut-être qu'il avait des vues sur toi. Puis c'est vrai que dans le début de carrière, il suffit, même plus tard, il suffit de pas grand-chose pour qu'une carrière, elle tourne. Hein. Puis là, si on n'est pas dans les bons papiers de l'entraîneur, le nouvel entraîneur qui est arrivé, le Suédois, là, à Bienne, peut-être qu'il n'a plus vraiment envie de travailler avec toi. Et puis là, c'est vrai qu'on a beau faire le job sur la glace. Si l'entraîneur il se focalise que sur nos petites erreurs de sur chaque jeu qu'on fait, ben on perd la confiance et puis ça lui donne des occasions encore en plus de nous mettre dans les tribunes. Donc ouais, c'est pas la carrière puis l'évolution d'un joueur, elle passe bien sûr par ses propres performances, mais il y a aussi vraiment tout cet entourage du staff. Faut être au bon moment avec la bonne personne et puis peut-être que ben justement à Bienne là. Avec le changement d'entraîneur, malheureusement, Gaël ne rentrait plus dans les plans du HCBN, puis tant mieux pour la Chajoie, puisqu'on a récupéré un bon défenseur.
Oui, après, j'ai commencé ma première saison pro en même temps que Philander. Après, je ne pense pas que c'est un problème personnel, parce qu'en début de saison, je jouais très bien, et puis ça allait très bien. Après, il y a aussi Blessing qui est rentré dans l'équation, où lui, il n'avait pas commencé la saison là, puis qui est arrivé après coup. Ben voilà, ça se joue tellement à rien dans ce sport où toi t'as une phase un peu moins bonne et puis un autre joueur, oui. Après, ils ont aussi Abien, il y a aussi Rodwin qui est revenu. Ça faut aussi un bon défenseur dans les plans. T'es pas à ton meilleur niveau au bon moment et puis des fois ça suffit, quoi.
Le débrief. Voilà, les amis, on va parler des étoiles et des épines, notre traditionnelle rubrique. Bon, il n'y a pas eu plus beaucoup de matchs depuis notre dernier rendez-vous, hein, il y a 2 semaines. Une seule rencontre contre Ambry et puis le match d'hier soir contre Fribourg. Donc, la valeur des étoiles et puis de l'épine, elles sont à relativiser, on va dire. On va dire qu'elles seront plutôt symboliques. Et puis, pour la symbolique, ben, moi, j'ai attribué les 3 étoiles à Kylian Motet, principalement donc pour son but d'hier soir à Fribourg, qui a été salué par toute la patinoire, un geste fair play durant le match. Après, on a vu qu'il y a des autres choses après le match, un peu moins fair play, mais je pense que bah, pour Kylian, pour son retour à Fribourg, il savait pas vraiment comment il allait être accueilli, et puis d'avoir marqué là-bas, bah, c'est une bonne chose pour lui, pour sa confiance aussi pour plus tard. Et puis Kylian, c'est aussi 4 points sur les 5 derniers matchs. Donc il a 7 points depuis le début de saison, il en fait quand même 4 sur les 5 derniers matchs. Donc il y a peut-être quand même aussi un regain de confiance et puis un déclic peut-être qui s'est passé pour lui. Et puis bah, j'y attribue ces 3 étoiles, votre avis?
Ouais, je peux comprendre sur cet instantané de ces derniers temps, voilà, qu'il y a annoncé que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance et on espère que ce but va lui faire du bien. Voilà, il cherche aussi un petit peu son rôle et sa place au HC Ajoie cette saison. Là, on l'a vu hier. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association avec Pierre-Édouard Belmar. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était à Fribourg la triplette offensive la plus percutante. Et puis Kylian, ben voilà, quel doit être vraiment son rôle au sein du HC Ajoie. On aimerait aussi le voir peut-être un petit peu plus sur un power play, par exemple, où il a pas forcément le temps de jeu qui a fait sa réputation dans le passé. Et puis voilà, on sait que c'est un buteur. Et puis c'était vraiment un bon moment de le voir marquer ce but hier soir, en tout cas.
Ouais, puis il nous confie aussi à l'interview, tu étais aussi la Rafi hier après le match, qu'il avait besoin d'adaptation aussi. Hein, son épouse et son enfant sont à Fribourg, des moments difficiles pour lui. Quand il nous le disait, il avait d'ailleurs les larmes aux yeux. Il faut s'adapter à une vie différente en venant à Port-Antruy. Et visiblement, ça suit son cours. Et effectivement, comme tu le dis, Yann, je crois que gentiment, mais sûrement, on voit la patte Motet sur le jeu. Je partage aussi que hier, la triplette avec Vic, Belmar et Motet, pour moi, était de loin la meilleure sur la glace offensivement. Donc, c'est de bon augure, évidemment, pour la suite.
Voilà, et puis, si vous partagez avec moi ces 3 étoiles, on va passer aux 2 étoiles. Celle-là aussi, dans la symbolique, je vais attribuer à notre invité, Gaël Christ, pour son premier point avec le HCA Ajoie. Et puis, vu que c'est aussi notre invité,
On
va pas faire d'histoire.
Donc, c'est Jérémy Vic qui a la 3e étoile, c'est ça?
Non, c'est pas lui qui a la 3e étoile, mais voilà, Gaël, il a aussi eu une petite blessure qui l'a un petit peu freiné dans ce début de saison. Là, il revient bien. Et puis, pour moi, il représente typiquement le genre de joueur sur lesquels le HCA Ajoie doit s'appuyer pour l'avenir.
Oui, entièrement d'accord avec toi. J'ai aussi trouvé intéressant les dernières sorties de Gaël. Je trouve qu'il y a aussi cette envie, à la Jonas Berthoud, j'ai envie de dire, de construire et de ne pas se débarrasser du puck. On a souvent connu, et on connaît encore trop souvent, entre guillemets, au HCA, des joueurs qui cherchent à se débarrasser du puck, qui ne cherchent pas vraiment les solutions adéquates. Et je pense que Gaël, dans ce registre-là, est très précieux. Et il y a encore une grosse marge de manœuvre, je pense, et une grosse marge de progression, évidemment. Mais avec les minutes qui s'accumulent, je pense que ça peut devenir un très gros atout pour le HCA sur la suite de l'hiver.
Ouais, moi j'aime bien ton profil de défenseur. Là, je trouve que tu dégages aussi parfois un petit peu de sérénité sur la glace. Mmh. Moi, j'aime ces joueurs qui ont parfois un petit peu la tête levée là, comme ça. Et puis voilà quoi. Tu fais un bon début de saison ici en Ajoie. Maintenant, voir aussi la suite. Hein. Il y aura peut-être d'autres défenseurs qui vont arriver en concurrence. Ça va aussi amener un petit peu plus de volume défensif au HC Ajoie. Et puis voilà quoi. On verra quelle place tu vas trouver dans ces nouveaux schémas.
Le Gaël qu'on voit maintenant, c'est le Gaël à 100% ou il y a une petite marge encore? Comment tu te juges depuis que tu es arrivé à Poran?
Je pense qu'il y a encore de la marge. Après, on parlait de ma saison précédente, j'en ai quand même beaucoup appris du fait de réussir à juger. Les saisons juniors, ça a toujours été, facile à traverser, mais en fait, on va dire que les moments où ça allait un peu moins bien, c'était pas plus compliqué que ça à gérer parce qu'au final, t'arrivais quand même à compenser avec autre chose. Mais l'année passée, je pense que j'ai fait beaucoup en début de saison qui marchait beaucoup. Et puis au final, une fois que ça marche plus, je me suis retrouvé un peu perdu. Donc là, je suis dans le essayer de trouver cette balance où les soirs où ça va bien, comme hier soir où je me sens bien, où avant-dernier shift, je fais encore une super sortie de zone en fin de temps, l'attaquant qui arrive. Ben ça, c'est le genre de truc, ça va peut-être pas marcher tous les soirs, mais les soirs où ça va, il faut savoir en profiter. Et puis peut-être qu'un soir où ça va moins, ben tu vas plutôt geler le puck et puis attendre le support d'un coéquipier. Mais pour moi, c'est vraiment essayer de trouver cette balance pour pouvoir jouer le meilleur de moi-même selon la situation, parce que c'est clair, il y a des soirs qui sont plus compliqués que d'autres. Mais non, je pense pas être dans ma forme finale et puis j'espère que je vais encore pouvoir beaucoup progresser.
Est-ce que, petite question, est-ce que ça change pour toi quelque chose justement d'être une équipe d'Ajoie qui a pas beaucoup de puck durant le match, où tu dois beaucoup défendre? Toi, t'as un joueur qui est assez mobile, qui a des bonnes premières passes, qui aime se projeter vers l'avant. Se retrouver dans une équipe comme Ajoie qui joue beaucoup défensivement, est-ce que ça demande une adaptation de ta part?
Pas plus que ça. Après, moi, je ne suis pas non plus un joueur qui briqueur avec le puck. Moi, je suis plutôt bon sur les transitions pour mettre de la vitesse. Et puis, en zone défensive, je ne suis pas le plus physique, mais j'ai quand même un bon jeu avec ma canne. C'est clair, il a fallu un temps d'adaptation. Après, ce que je peux dire, c'est peut-être presque plus facile de jouer à Ajoie dans certaines situations ou du fait que ce n'est pas forcément grave de mettre un puck dehors. Alors, il faut trouver le bon équilibre, il ne faut pas s'en débarrasser. Comme on en parlait avant, ce qui nous arrive probablement un peu trop encore maintenant, où on se débarrasse trop du puck, puis on ne l'a plus assez pour pouvoir créer. Mais il y a aussi peut-être moins la pression du fait qu'il faut absolument faire la bonne passe à chaque fois. Là où dans le jeu comme à Bienne, c'était beaucoup plus... Il fallait être beaucoup plus précis là-dessus, faire les sorties de zone par le centre où c'est plus risqué, ce genre de choses. Donc il y a peut-être moins de pression à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que, il y a de temps en temps, on a le puck et puis c'est encore plus important de le garder parce qu'on sait que si on le redonne, on le voit peut-être plus pendant un moment.
Ouais, puis on va passer à l'étoile. Donc une étoile, c'est là, je l'attribue. J'ai dû réfléchir hier soir en regardant le match contre Fribourg à qui je pouvais la mettre. Et puis, j'ai pas vraiment eu. Vous avez parlé du trio, hein, Belmar, Vic et Pimotet. Mais voilà, moi, j'ai plutôt pensé à un duo, Turkulainen-Nettinen, qui nous a fait rêver à des jours meilleurs juste avant la trêve, pendant le match contre Ambry, où on a retrouvé justement ce duo prolifique qu'on avait l'année passée, et puis qu'on s'était dit là, on retrouve notre duo québécois, j'allais dire.
C'est l'habitude.
C'est l'habitude. Mais notre duo finlandais qui on a tant besoin justement en production offensive. On va parler après la production offensive des étrangers, mais là, sur ces derniers matchs avant la trêve, on retrouvait à nouveau un peu un duo Nettinen-Turkulainen qui faisait vraiment plaisir.
Ouais, ça nous semble tellement loin là, cette percussion entre l'un et l'autre. On l'a vu hier soir, hein, Turkulainen sans Nettinen. On a vu aussi Nettinen sans Turkulainen. Il faut vraiment que l'un et l'autre évoluent ensemble au bon niveau pour qu'ils performent. Et puis, contre Ambry, et puis ça a été des beaux mouvements en tout cas là.
Oui, rien à ajouter. C'est vrai que les 4 points de Nettinen, je pensais que tu allais même le citer avant. Il a eu la chance, entre guillemets, je peux dire la chance dans la malchance, mais de pas être présent hier à Fribourg pour que ça lui enlève quelques points. Et du coup, il reste sur ses 4 points contre Ambry. Donc, clairement, il méritait pour moi de figurer dans ce trio. Et aussi, on voit clairement Turkulainen hier. On a parlé de la première ligne aussi, tant dans l'article du QG que dans le mien sur RFJ, de ce manque de percussion de la première ligne. Et on voit qu'un Turkulainen sans Nettinen, c'est pas le même. Alors, peut-être qu'il était dans un soir sans aussi, mais il s'est beaucoup cherché, j'ai trouvé hier, sans vraiment trouver de solution. Et c'était une soirée compliquée pour la ligne de parade du HCA.
Et puis, il faut passer aussi à l'épine. Donc, l'épine, quand on perd un match aussi nettement qu'hier soir à Fribourg, on pourrait la mettre à plusieurs joueurs, trouver beaucoup d'excuses. Mais voilà, je vais l'attribuer à Valentin Pilet. Pour ses pénalités qui nous prend, ce 2+2 hier quand même qui enterre les espoirs à Joulot dans ce deuxième tiers, et puis pour la pénalité également contre Ambry en fin de match qui amène le but. Voilà, on sait que c'est son travail de jouer dur, d'être dur dans la zone défensive, mais voilà, c'est le premier à s'en vouloir. Les images, ceux qui ont suivi à la télévision le match de Fribourg l'ont vu, il enrageait sur le banc. Il sait qu'il doit pas prendre une pénalité comme ça. C'est des choses qui arrivent, mais elle coûte cher à l'équipe, et puis il fallait trouver quelqu'un à blâmer.
Ouais, c'est vrai qu'il était bien malheureux aussi, parce que son geste, la continuité en quelque sorte d'un geste de Kane. C'est pas forcément, je pense, ce qu'il voulait faire, mais clairement à ce moment-là du match, c'est le genre de geste qu'il faut éviter, parce qu'Ajoie était bien dedans à 2-1, on en a parlé avant Gaël. On tue la pénalité, on prend l'énergie avec, malgré tout. Et puis c'est vrai que dans la continuité de la pénalité, malgré le retour de Pilet, on encaisse 3-1 qui fait totalement changer le match. Et puis Ambry, c'est clair que là aussi c'est une pénalité qui fait pencher la balance en faveur des Tessinois. Et puis c'est beaucoup de regrets au final, parce que tant contre Ambry il y avait un coup jouable, que hier aussi à 2-1, même si Ajoie était clairement pas dans son meilleur soir, on avait sur ce petit laps de temps tendance à y croire. Mais c'est effectivement des gestes qui coûtent cher.
La bande du jeudi.
Ok, on va continuer cette émission en parlant un peu d'actualité peut-être. Il y a le chiffre 5 qui revient à mon sens. Tout d'abord, 5, c'est le nombre de gardiens que le HCA a désormais sous contrat après la signature de Keller dernièrement. Bon, alors on va peut-être un petit peu faire un tour de table sur l'avis de chacun sur ce ménage à 5. Comment ça va se passer? Quels sont les bénéfices et peut-être aussi les inconvénients?
Alors, comment ça va se passer? Je suis bien impatient de voir, et voilà quoi. C'est une situation. Déjà, avec 3 gardiens, on trouvait que c'était déjà un petit peu bancal. Là, à 4, on voit dans les entraînements, c'est compliqué à gérer, et puis surtout, ça va être compliqué pour les matchs. Quand vous avez un gardien qui est aligné, entre guillemets, il y en a 3 qui vont un peu tirer la gueule, qui joueront pas, et puis il faudra être très intelligent dans le tournus. Après, moi, je comprends parfaitement le move concernant Antoine Keller. Le HCA Joie doit aussi avoir doit avoir un coup d'avance par rapport à la saison prochaine. Je trouve que ça peut être un bon duo avec Noah Patnaud, et puis je pense que derrière il y aura un troisième voire aussi un quatrième gardien, mais partir avec Patnaud et Keller, c'était un truc à faire. Mais c'est clair que ça met maintenant un petit peu le HCA Joie dans une situation un petit peu difficile à gérer. Keller aura besoin de temps de jeu. Il a les Jeux Olympiques en tête, donc il faudra l'aligner. Noah Patnaud, il aura aussi besoin de temps de jeu, parce que si on veut en faire de lui le numéro 1 la saison prochaine, il faudra bien lui montrer qu'on lui fait confiance. Et puis les gardiens d'expérience que sont Tchatcho et Kons, eux aussi devront jouer, parce que j'imagine bien qu'en fin de saison, on aura besoin d'eux.
Leur expérience sera précieuse.
Donc c'est une situation qui est assez délicate.
Ouais, d'ailleurs, on parle de 5 gardiens, maintenant on va parler que de 4 là, finalement.
Oui.
Parce que Bernasconi,
il est blessé,
et puis quand même c'est un signe pour lui qu'il n'entre pas dans l'équation à Joulotte, hein. Donc oui, on a 4 gardiens, 2 d'expérience qui sont plutôt sur la fin de carrière, 2 jeunes qui sont très prometteurs, et puis que je te rejoins, Rafi, je pense que l'opportunité de pouvoir signer Keller ou Achajois en vue de la saison prochaine, c'était le move à faire. On peut pas reprocher ça à Vauclair. Et puis après, maintenant, il aime bien faire des choix, notre Greg Ireland. Donc, il aura des choix à faire à chaque match. Et puis, essayer d'avoir, avec l'aide de Vlad, l'entraîneur des gardiens aussi, pouvoir garder tout le monde dans le coup et puis donner la confiance à tout le monde.
La question, c'est est-ce qu'on arrive à garder tout le monde dans le coup quand on joue, quand on va jouer en moyenne un match sur quatre.
Bah c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça qui me dérange entre guillemets aussi, c'est que on voit que actuellement, sans blâmer les gardiens, on encaisse vraiment beaucoup ces derniers temps, plus de 5 buts en moyenne par match depuis les 5 dernières rencontres. Je dis pas que c'est la faute des gardiens, mais on voit quand même, dans chaque performance des gardiens, on n'a jamais vraiment eu, ou peut-être à 2-3 matchs sur la vingtaine qu'on a vécu, un match où on s'est dit, après le gardien, c'est l'homme du match. Alors que clairement, au hockey sur glace, ça arrive quand même régulièrement. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que, à mon sens, c'est aussi parce qu'il y a trop de profondeur actuellement, que les gardiens n'arrivent pas à accumuler. On sait à quel point c'est important de pouvoir en faire une bonne, la confirmer, et après on est lancé. Là, on n'a jamais le temps de lancer la machine, en fait, parce que du coup, on tourne, rotation, derrière, on ne peut pas prouver, ça sème le doute, et même avec de l'expérience, le doute s'installe quand même. Et j'ai l'impression qu'avec ça, on avance quand même globalement peu. Les automatismes avec les défenseurs, ça se travaille aussi, mine de rien, en match, à l'entraînement, certes, mais dans l'intensité des matchs aussi. Et tout ça fait que finalement, moi, je crains qu'on arrive en fin de saison avec une équation à 4 qui sera jamais résolue parce que tout le monde doit jouer pour concerner tout le monde, parce que tout le monde a des enjeux. Et puis qu'on finalement n'est jamais un gardien numéro 1 prêt à aller au combat, aux échéances capitales, quoi.
Ouais, puis ça commence à faire beaucoup de monde qui ne joue pas, voilà, entre les mercenaires surnuméraires, les gardiens surnuméraires, et puis là aussi maintenant cette flopée d'attaquants aussi qui ne vont pas jouer. Commence à faire du monde en tribune. Hein.
Même si je partage aussi que le deal est très intelligent, que c'est un gardien à haut potentiel et qu'une opportunité comme ça, elle peut difficilement se refuser pour un club comme le HCA. Quoi.
T'es pas d'accord ?
Il n'y a pas de gardien qui a gagné des matchs. Je trouve que pour l'instant, autant Chacho, Kons que Patnaud, chaque fois qu'ils sont rentrés, moi je trouve qu'ils ont fait le job.
Oui, mais, ils n'ont jamais vraiment gagné un match.
Gagner un match, on n'a pas gagné beaucoup. Hein.
Bon, non, mais justement, deux fois Chacho, une fois Kons.
Ouais, mais Tchatchok, le match qu'on gagne, il en enlève je sais pas combien. Kons, il a fait aussi des saves de malades certains matchs.
Ouais, mais après, je dis pas qu'ils font pas le taf. Hein. Je dis juste que eux, ils arrivent pas une fois à sortir puis dire, OK, tu continues, elle est belle.
À la Ishliman à Davos, sortir, être le gars qui te fait gagner le match parce qu'il fait les 2-3 saves, mais il a pas les 40 shoots de plus que nos gardiens ils ont aussi. Hein.
Ils ont quand même tenu beaucoup de matchs. On va plutôt utiliser ce terme parce que
ils n'ont pas gagné le match, mais
il y a quand même eu quelques matchs, dont un où j'étais blessé dans les gradins, où je crois que c'est Tchatcho. Je me suis dit vraiment là.
C'est pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Ce que je vais surtout dire,
premier tiers là, s'il est pas là, il y a déjà 2-3-0. Le match il est fini, ouais.
Mais c'est surtout pour eux, je dis entre guillemets. Il y a jamais eu une semaine à 3 matchs où c'est le même qui joue et puis. Il sort grandi, quoi.
Ça, on n'aura pas cette saison.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un problème, justement ?
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
La dernière séquence avant le quiz, je vous propose qu'on la consacre aux étrangers. Ça a été notre moteur de très longue saison au HCA Joie. Ça l'est par moment encore cette saison. C'est par moment aussi un peu plus compliqué, peut-être. Hein, quelques stats quand même pour lancer la chronique. Hein, Belmar, 0 but marqué par exemple. Eisen, 11 matchs consécutifs sans but marqué. De Vos, 1 point lors des 11 derniers matchs. Gauthier, 2 points lors des 10 derniers. 6 points en 19 matchs. J'ai volontairement enlevé Nettinen, Turkulainen et Onka parce que c'est ceux qui tournent le mieux. Mais on peut quand même identifier un problème à ce niveau-là, ou du moins des performances qu'on attendrait peut-être supérieures, ou en tout cas en deçà de ce qu'on a connu par le passé de ces joueurs-là. Quoi.
Bah, pour moi, Joe, Hazen et puis Phil Michael DeVos, on les a mis dans une position très fragile dès le début de saison. C'est nos deux étrangers qui marchaient le mieux en début de saison. Ils ont été top scorers l'un après l'autre. Et puis, résultat, on a fait quoi? On les a mis dans la tribune. Donc, ils savent maintenant qu'ils jouent avec un sac de sable sur les épaules, puis qu'à la moindre connerie, à la moindre match où ça va pas aller, ils vont se retrouver en tribune. Donc, les deux, la confiance, elle est pas là. Le moral, il est pas là. Je pense que pour avoir côtoyé Johnny avant la saison, il est arrivé avec un état d'esprit super positif, en se disant il y aura un étranger surnuméraire certainement à chaque match, mais voilà, j'attendrai ma chance, je suis venu avec ça, puis il a répondu présent quand on l'a mis sur la glace, et puis au moindre occasion, on l'a mis dans les tribunes, puis ça, à un moment donné, ça pèse sur le moral.
Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aimerais aussi parler du cas Fred Gauthier, hein, qui a été prolongé jusqu'au terme de la saison. Là, c'est un contrat que je comprends. Je crois que dans la situation actuelle, le HCA Joie devait le prolonger jusqu'à la fin de la saison. On aura besoin de lui certainement Peut-être en février, mars, avril, on verra comment ça avance. Mais moi, la question, c'est que fait-il dans le premier bloc? Que fait-il voilà, c'est pas un centre qui doit emmener les offensives du premier bloc du HC Ajoie. Et puis, je trouve qu'il y a un problème entre guillemets d'équilibre au sein de la hiérarchie des centres au HCA entre Belmar, De Vos et Gauthier. J'arrive pas vraiment à cibler celui qui peut accompagner le mieux le duo Turkulainen et Nettinen.
Et est-ce qu'on peut vraiment dissocier De Vos et Hazen, qu'on fait tout ce qu'ils ont fait au HCA ensemble, que tu l'as dit Yann, on le voit, et hier franchement Hazen sur la glace faisait parfois mal au cœur, on le voyait vraiment qu'il se cherchait, qu'il était déçu de lui-même, qu'il patiner dans la semoule. Est-ce qu'on ne devrait pas, ces joueurs-là, justement, les remettre en selle, en les mettant ensemble? Ils peuvent jouer ensemble, les yeux fermés, ils marqueront des buts pour Ajoie ensemble, c'est certain. Mais on se refuse quelque part à faire fonctionner quelque chose qui marche bien et qu'on a quelque part comme une garantie, en quelque sorte, quand même.
Ouais, dans le roulement des centres, mine de rien, ça change, hein, la dynamique de chaque ligne. Comme tu l'as dit, faut trouver peut-être cette hiérarchie et puis trouver. Il y a des duos qui se font, mais il y a aussi l'équilibre des lignes. Puis pour l'instant, on n'a pas trouvé encore vraiment cette ligne moteur qui amène le momentum, qui va passer 30-40 secondes dans le camp adverse, puis qui va pouvoir entraîner les autres lignes. Mais on n'a pas encore eu vraiment le bon équilibre. On voit d'ailleurs, ils cherchent, ils changent quasiment à chaque match. Et puis la gestion des centres, c'est compliqué, parce qu'on voit, on a Vic qui a joué à l'aile, on a Roman Engi qui était 13e attaquant. Donc on a pléthore de centres, et puis comment faire pour avoir la bonne équation.
Mais tu mettrais qui, toi, avec les deux Finlandais, alors?
Moi, Belmar, c'était un gars quand même l'année passée qui marchait bien. Je l'ai pas trouvé super bon en ce début de saison. Il monte en puissance. Le rassemblement avec l'équipe de France, j'ai l'impression qu'il a fait du bien. Hier soir, il était quand même vraiment là dans le match. Donc, c'est une ligne qui a fonctionné. Après, comme tu l'as dit, peut-être un Hazen avec un cas de Vos, ça peut donner confiance. Après, je pense que... Ouais, c'est puis comme tu le dis, moi Gauthier, c'est pas un centre de premier voire de deuxième bloc. C'est un très bon centre défensif. Il doit pouvoir faire même plus de jobs défensifs. Pour l'instant, je trouve qu'il amène pas encore tout ce qu'il a amené la première année qu'il était là. Mais je le verrais plutôt dans le troisième trio. Mais
dans l'œil de la vouivre.
Bon, j'ai l'honneur d'égayer un peu cette émission avec la bonne habitude de la dernière partie du podcast, le fameux quiz Envier loin à la ronde, de Courtedou à Bécomo. Vous connaissez la chanson, c'est l'occasion de tester la culture hockeyistique autour de cette table et de réveiller la mémoire de la légende Yann Voya. Toujours alerte, hein, Yann, hein?
Ouais, alors attends, j'ai peur maintenant, là. Hein?
Bon, gars, on profite de ce petit quiz pour aborder les prochaines échéances du HC Ajoie par quelques petites questions sympas, et on te laissera quand même un petit peu d'avance pour les réponses, parce qu'ici, on est sympa, hein?
Bien sûr.
Entendu.
Ah ouais, moi je te laisse répondre, Gaël.
On y va avec la question number one. Ce vendredi, c'est Lausanne Ajoie. Une question autour du meilleur sniper défenseur du championnat. Il a 7 buts et 12 assists pour l'instant. Qui est en tête du classement des défenseurs du championnat de Suisse? Et en plus, je vais vous demander les 5 premiers. Ouf. Le meilleur?
Le meilleur, je dirais Puljujärvi.
Alors, non, il est pas dans le top 5.
Tu dis défenseur.
Défenseur. Hein. Oui, on parle des défenseurs. Hein. Donc, il y a un rapport avec Lausanne. Hein,
Brandström.
Voilà, Erik Brandström, voilà, c'est lui qui est en tête. 7 buts et 12 assists. Puis maintenant, je vous demande les 2, 3, 4 et 5, juste pour le fun, comme ça, vous les avez.
Kapla Onka.
Onka, il est là. Pas Kapla. Onka, il est quatrième, ouais, avec 15 points. On a Davos, Langnau et Genève Servette.
Baptiste Berger.
Non. Finlandais à Langnau, c'est Kinnunen.
Kinnunen, oui.
Voilà. Davos, un international suisse.
À Forin.
Lucas Frick.
Frick.
Et okay. Puis à Genève Servette, un ancien Finlandais de Langnau. Voilà, Sarijärvi.
Ah, Sarijärvi.
Voilà. Bon. Il faut se reprendre un petit peu, les amis. Là. Allez. Deuxième question, Fred Gauthier.
C'est la chaleur.
Fred Gauthier. On l'a dit, redit, il sera au HCA jusqu'au terme de cette saison. Question, quel est le nom de ses... Non. C'est pas ça, c'est Stella et Luffy, mais c'est pas ça. Plus sérieusement, combien de matchs de NHL peut-il revendiquer sur son CV? On verra qui est le plus proche. Nombre de matchs de NHL de Fred Gauthier.
120.
120 pour Michel.
Je laisse l'avance à Gaël.
Moi, je dirais plus, je dirais 215.
Ouais, j'étais aussi dans les 200, j'aurais dit 260, 280.
C'est 7 saisons de NHL quand même, hein, Fred Gauthier. Et on est, t'as dit 120?
Ouais.
On est à 121. Bien joué, Michel. Ouais, avec Toronto, Arizona et New Jersey, où il avait notamment Nico Hischier comme coéquipier. Voilà. Fred Gauthier, on espère accueillir volontiers une prochaine fois dans ce podcast. Hein.
Ce serait volontiers, effectivement.
Voilà. Samedi, match face à Genève Servette, et c'est le sujet de ma question numéro 3. À quand remonte la dernière victoire à domicile du HC Ajoie en championnat, donc, contre les Aigles? Là aussi, qui est le plus proche? Est-ce que vous avez le souvenir de la dernière victoire du HCA? Ouais, c'est un peu pas une question facile pour toi, je l'avoue, Gaël.
Ouais, mais pourtant, Or Genève n'a pas eu des matchs faciles à part entre lui. L'année passée, je pense qu'Ajoie a gagné mieux.
La saison d'avant.
Non plus.
Ah ouais,
okay. Ouais, ça remonte. On est sur 6 défaites de suite à domicile, le HCA Ajoie. 4 mars 2022, c'était la première saison. 4-3 prolongations, victoire d'Ajoie avec un doublé pour Guillaume Asselin. Une réussite de Devos et le premier but, un nom improbable, ça va vous revenir, c'est Lars Frey. Je pense même que c'était le seul but de sa carrière en National League, si je m'abuse. Prochaine question, on va évoquer le derby de ce mercredi prochain contre le HC Bienne. Le capitaine Gaëtan Haas, côté biennois, est de retour au jeu. Et on est bien content de le revoir à ce niveau après sa commotion, qu'il a éloigné des patinoires durant de longs mois. Je crois qu'il est même resté une année sans marquer. Je vous demande simplement de me donner son pointage actuel. C'est le 4e meilleur compteur de son équipe. Je veux le nombre de buts et d'assists de Gaëtan Haas cette saison. Gaël.
Bon, j'en ai aucune idée.
Ce sont bien mes questions, non?
J'ai bossé
un peu, là.
Bon, moi, je ne suis pas trop un...
Pas très statistique.
Stats, non.
Ouais, pas trop, le nombre de buts. Combien de buts cette saison, Gaëtan?
Il en est à 6.
7.
6, 7.
Je dirais 5.
Ah, ben c'est 4. 4 buts, 13 assists. Non, mais c'est pas mal, quoi. Voilà, bon début de saison pour Gaëtan Haas. Voilà, question 5. Je pousse le calendrier jusqu'au match de vendredi prochain. On va où vendredi prochain, le 21 novembre?
Zurich.
Déplacement à Zurich. Voilà, Zurich qui va mieux. Attention, hein, champion 2025 et 2024, hein, Zurich. Question, on l'a compris. Zurich qui va chercher un troisième titre consécutif. Quel est le dernier club suisse à avoir aligné 3 titres de suite, même 4?
Davos. Voilà.
Zug.
Non plus.
Berne.
Non plus. Ah, c'est bien. Alors, on va faire le tour de la Suisse. Ah, oui. Le dernier club à avoir gagné 3 titres de suite et même 4. Allez, je vous donne les années.
68, 69, 70, 71.
Non. 93, 94, 95, 96. C'était les
années Lugano-Berne, là, mais...
Ouais, il y avait un autre club qui était devant.
Qui c'est qu'on a oublié dans ce championnat?
Oui. Il y a même un Jurassien qui a été titré là-bas, il est parti là-bas. Oui. Là, je vous mime.
Kloten. L'époque de Frédéric Rotten.
Exactement, avec un petit peu les entraîneurs suédois ou finlandais à l'époque, me semble-t-il.
Là. Ouais, c'est là où c'est que nos deux vieux, je crois que c'était... Bon, Lundstein et puis je ne sais plus le nom de l'autre, il ne jouait qu'une quinzaine de matchs par saison. Il faisait de la présence durant la saison. Et puis les playoffs, ils étaient juste incroyables, ouais, je me souviens.
Bon, on va arrêter avec ces discussions de vieux, Yann. On va passer à la question numéro 6, c'est celle réservée aux internautes. Lors de notre dernière émission, c'était il y a 2 semaines, Yann, tu étais aux commandes du quiz et tu avais posé une question sur Valentin Pilet. Ça concernait sa fiche de buteur avec le HC Ajoie. Une seule réussite inscrite, on demandait contre quelle équipe. Tu as la réponse, c'était
Langnau.
Langnau, il fallait donc donner Langnau. Et c'est Cléa Voisard de Bressaucourt qui emporte le cadeau aux couleurs de la botte du jeudi. Bravo à Cléa, on va te contacter prochainement pour te remettre ce magnifique objet botte du jeudi. La nouvelle question donc, Gaël, Michel et Yann, elle concerne le premier duel de la saison de Bienne et Ajoie. Rappelle là, ce duel là, une rencontre sans dessus-dessous qui s'est finalement jouée au tir au but. Alors, je vous demande le nombre de pénalties, donc le total tiré par les deux équipes lors de la séance, qui a beaucoup duré, hein, entre Bienne et Ajoie. Il y a même eu un changement de gardien côté Ajoie, rappelez-vous. Et puis donc, au final, c'est Bienne qui s'était imposé, avec notamment 3 buts dans cette séance de Lias Anderson. Voilà, combien de pénalties au total dans ce duel? Indice, c'est plus de 10. Hein.
Et puis, tu as donné un indice, il y a 3 buts de Lias Anderson. Donc, si vous êtes malin et puis connaissez les règles, vous savez déjà combien il y a eu, en tout cas, obligatoire.
Oh, ce qu'il est fort, Yann, voilà. Mais il faudrait être meilleur dans la première partie, quand t'as le droit de jouer, tu sais.
Ah ouais, c'est dommage, j'ai pas compris les règles encore.
Bon, on attend vos réponses directement sur la page consacrée à la botte du jeudi, sur le site internet de RFJ, où vous retrouverez un formulaire, vous notez votre réponse, vos coordonnées, mais aussi par l'adresse mail bdj@lqj.ch. Là aussi, la réponse et vos coordonnées, et on vous donnera le nom du vainqueur dans 2 semaines, c'est ça?
Dans 2 semaines, c'est ça.
D'accord.
Ben merci, Gaël, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci aussi Yann, merci Rafi. On se retrouve donc dans deux semaines pour la suite de cette bande du jeudi. À bientôt.
Avec plaisir. Ciao, ciao.
À bientôt.
La bande du jeudi.